Puis voilà, ok, ça marche. Et en conséquence, je vous souhaite une bonne soirée et je vais rester avec vous, mais un petit peu éloigné. Je laisse la parole à Benoît, vice-président de l'Association de la bibliothèque. Merci.
Merci Bertrand. Cher père Emmanuel, que j'ai l'honneur de présenter ce soir, vous êtes né en 1979, vous êtes prêtre du diocèse de Grenoble, ordonné en juin 2007. À la suite des années de votre premier cycle de séminaire que vous avez effectué à Ars, vous avez été envoyé poursuivre votre formation à l'IET, l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, alors dirigé par les Jésuites. C'est là que vous avez suivi l'enseignement d'amis et de disciples du jésuite Henri de Lubac, décédé en 1991, et que vous avez été éveillé à un chapitre moins connu de la théologie de l'histoire. D'abord, par un mémoire sur la pensée de saint Thomas d'Aquin et de Jean d'Aiglemont sur ce sujet, puis par votre thèse de théologie dirigée à Bruxelles par le père Bernard Potier, également jésuite, et que vous avez soutenue en 2014. Elle avait pour titre Mystique chrétienne de l'histoire, le, entre guillemets, plaidoyer pour l'histoire d'Henri de Lubac. L'expression, entre guillemets, étant extraite par le père de Lubac d'un écrit d'un chanoine régulier augustin, Hugues de Saint-Victor, célèbre théologien du XIIe siècle. Vous avez conjugué ensuite deux responsabilités pastorales bien différentes. D'une part, la cure de saint Thomas de Rochebrune, puis celle de Rives. Et enfin, depuis 2016, à Grenoble, la paroisse Saint-Joseph, paroisse des jeunes étudiants et jeunes professionnels. D'autre part, l'enseignement de la théologie dogmatique, ici au Centre théologique de Mélan, où vous êtes chargé tour à tour des cours sur la création, l'eschatologie, les sacrements et la christologie. Je ne suis pas exemple. Mais ce soir, vous ne nous parlerez pas directement de votre thèse qui n'a pas été publiée. Le motif formel de notre réunion aujourd'hui est la parution de votre livre dans une collection bien connue, Prier 15 jours avec Henri de Lubac, paru aux éditions Nouvelle Cité en février de cette année. Pour le dire en une phrase, si vous me permettez ce raccourci, vous utilisez le canevas des exercices spirituels de saint Ignace pour présenter les grands axes de la réflexion historique et théologique du cardinal. Dans votre interview sur les ondes de RCF en février dernier, vous avez rappelé qu'Henri de Lubac avait, dans les années 50, reçu des mises en garde de la part de Rome, étant même interdit d'enseignement quelques années. L'origine de ces mesures, c'est moi qui le précise, venant des tenants du néo-thomisme, tenants craintifs devant un retour ou un recours au Père de l'Église. Il est significatif que l'aggiornamento de l'Église catholique se soit réalisé en grande partie en puisant dans les trésors de la tradition, trésors que le père de Lubac avait éminemment fait connaître. Des dizaines de milliers de références et de citations que beaucoup d'entre nous connaissent à travers ces grands ouvrages, parmi lesquels Catholicisme, Méditation sur l'Église, Exégèse médiévale, Quatre sens de l'Écriture, Le drame de l'humanisme athée, pour n'en citer que quelques-uns parmi beaucoup. Il est alors d'autant plus étonnant qu'après Vatican II, la remise à l'honneur de ces trésors évalue à leurs redécouvreurs, si je puis dire, suspicions et critiques. Vous n'allez pas ce soir, cher père, parler directement de votre lit, mais exposer les différents apports du père de Lubac à la théologie du Concile Vatican II. Il faut avoir, comme vous, une longue familiarité avec l'ensemble de son œuvre pour dégager les grandes lignes de l'influence que le jésuite lyonnais exerça sur le Concile. Heureux les étudiants et les jeunes professionnels dont vous avez la charge depuis plusieurs années à Grenoble. Heureux qu'ils sont de bénéficier de votre savoir théologique acquis auprès des sources les plus autorisées, ignatiennes et lubaciennes. Et heureux sommes-nous à notre tour de vous écouter ce soir.
Merci à M. Guin, merci beaucoup pour cette présentation, un peu trop élogieuse à mon avis, et surtout, je ne suis pas sûr de remplir exactement toutes les cases que vous avez proposées pour ce soir, enfin j'espère ne pas trop vous décevoir. Merci à Bertrand qui est à distance. Je salue le père Stern qui est là, qui connaît le père de Lubac bien mieux que moi puisqu'il a fait sa thèse avec le père de Lubac. Merci d'être là, père Stern. Et puis, je salue aussi Dominique Bonnet, qui m'a aidé à être en contact avec les nouvelles cités. Merci, Dominique, pour votre aide. C'est une joie de... Quand j'étais en thèse, donc, il y a quelques années, je m'étais dit, tiens, il n'y a pas de prier 15 jours avec Lubac, et j'aimerais, si un jour l'occasion m'en est donnée, de le faire. Donc, au fur et à mesure de mon travail, j'avais mis comme ça des textes de côté, parce que ce n'est pas évident de rechercher chez un auteur théologique et un dogmaticien qui plus est, aussi paradoxal que celui-là puisse paraître, des textes qui aident à prier. Ce n'est pas si simple que ça, en fait. Bon, c'est peut-être un paradoxe, mais comme ça. Et donc, au fur et à mesure de ma thèse, j'avais mis comme ça quelques textes de côté. Et puis, les différentes missions que j'ai eues ne m'ont pas permis de le faire. Et puis, il y a un confinement. Hein, comme quoi c'est utile les confinements, qui m'a permis de mettre ce projet à exécution. Et donc je remercie aussi les éditions de Belle Cité d'avoir accueilli ce projet et de m'avoir permis de le mettre en œuvre. Alors, quelques mots, et puis ensuite on a un temps d'échange, hein, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Donc Henri de Lubac est un prêtre jésuite français. Il est né en 1896, il est mort en 1991. Il a pratiquement donc couvert tout le XXe siècle. Et c'est donc, vous l'avez dit, Monsieur Guin, une des grandes figures du catholicisme au XXe siècle. Il a eu un apostolat assez monolithe, on pourrait dire, puisqu'il s'est consacré au travail intellectuel, d'où est sortie une œuvre monumentale. Il y a aujourd'hui aux éditions du Cerf une réédition complète de ses œuvres qui fera à peu près 50 volumes, donc c'est assez considérable. Et on considère souvent l'œuvre du père de Lubac comme une de celles qui a le plus alimenté l'élan du Concile Vatican II, les conciles 1962-1965, qui, je le rappelle, donc, a été initié par Jean XXIII et repris à partir de la deuxième session du Concile, par le pape Paul VI. Voilà, quelques mots pour situer un peu cet homme. Monsieur Guin l'a un peu évoqué tout à l'heure. Malgré la richesse et la reconnaissance dont il fut l'objet, le travail du père de Lubac a pourtant cristallisé d'importantes tensions ou oppositions dans l'Église. Et certains aspects de sa pensée ont été durement rejetés. Alors, au risque de jeter un pavé dans la mare ce soir, j'ai choisi, pour présenter l'approche du mystère de Dieu que Lubac nous propose, de m'appuyer sur un texte qui n'est pas dans le Prier 15 jours, qui a été édité dans le bulletin de l'association du père de Lubac, un texte dans lequel Henri de Lubac affronte la fraction dont lui-même fut la victime. Je vous ai donné, vous aurez pour suivre ce soir, normalement vous devriez tous avoir une feuille avec des textes. Il me semble que c'est utile de les avoir sous les yeux parce que les textes sont peut-être compliqués pour certains. J'espère que ceux qui sont en visio...
Alors, en visio, tu peux le préciser qu'ils peuvent ouvrir le document dans la fenêtre discussion.
En visio, ceux qui sont en visio, bienvenue d'abord. Et dans la... Comment le truc discussion, là voilà, la fenêtre discussion, il y a un document PDF que vous pouvez ouvrir. Ne vous moquez pas, au fond, c'est vous. Le père de Lubac, c'est le texte 1, si vous voulez le prendre, écrit ceci. Parmi les chrétiens que la situation présente préoccupe le plus, on voit assez généralement s'opérer un clivage. Ce ne sont pas sans doute deux catholicismes, mais deux familles d'esprit, deux tendances qui en viennent souvent à se dissocier en deux parties, en deux camps opposés. On parle même quelquefois à ce sujet en généralisant et en détournant quelque peu les mots de leur sens précis, de modernisme et d'intégrisme. Naguère, on disait libéralisme et traditionnalisme. Voilà, ces propos, ils sont tirés d'une conférence que le père de Lubac a donnée à Turin le 19 janvier 1963. Alors, à cette date, le 19 janvier 1963, le Concile Vatican II vient de s'ouvrir. On est entre les deux premières sessions et Lubac vient partager ce qui se vit dans l'Église et dont il est le témoin à Rome. Alors, en parcourant quelques passages de ce texte, nous percevrons, je l'espère, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, l'actualité de l'œuvre de ce grand témoin de la vie religieuse du XXe siècle, un siècle dont on connaît les nombreux soubresauts et dont notre génération, et je le vois à Saint-Joseph, à Grenoble, dont notre génération récolte plus ou moins difficilement les fruits. Alors, comme au début de chaque 15 jours de ce petit volume, je vais commencer par une citation à partir de laquelle se déploiera le reste de notre méditation. Au début de sa conférence, donc, à Turin, en 63, Henri de Lubac donne les éléments de la réflexion qu'il va poursuivre dans cette conférence. C'est le texte 2 que vous avez sur votre feuille ou sous les yeux. Voilà ce qu'il dit en introduction. Pour vous l'avouer tout de suite, je crois qu'aujourd'hui nous sommes assez généralement avertis de ce que dans l'immédiat notre temps exige, et peut-être même nous laissons-nous quelquefois intimider par ce qui nous paraît être ces exigences, si bien que notre juste souci d'adaptation en vue d'y mieux répondre, risque d'estomper dans notre esprit les exigences permanentes de notre foi. Mais, en parlant des exigences actuelles de la foi, nous aurons à voir, en fait, ces mêmes situations, ces mêmes problèmes de notre temps, avec plus de chances de fidélité entière. Voilà, un passage qui peut-être paraît un peu anodin. On va essayer de... L'objectif, ce serait que vous puissiez le comprendre du mieux possible. En fait, ce passage, il est assez représentatif du travail de Lubac, de la manière de Lubac de travailler, de penser, de vivre l'acte théologique, on pourrait dire. Alors, je ne vais pas entrer dans les justifications publiques, mais je vais tâcher de vous exposer cette manière de penser pour vous aider à en apprécier la richesse. Donc, il y aura trois temps, vous le voyez sur les feuilles, hein, une réflexion enracinée dans le paradoxe de la vie évangélique. Ensuite, nous danserons un peu en valsant, la valse à quatre temps, et puis la recherche de l'unité au service de la vie. Alors, dans le premier temps, On notera tout d'abord, et tout connaisseur du père de Lubac l'a vu, on note tout d'abord le goût d'Henri Lubac pour ce qu'il appelle le paradoxe. Henri Lubac relève volontiers les oppositions auxquelles la vie ordinaire et plus encore la vie chrétienne nous confronte. L'homme est charnel, on le sait bien. Bertrand a le Covid, donc c'est concret. L'homme est charnel, mais il est aussi esprit. Il est un individu, mais il ne peut vivre isolé. Et Jésus est pleinement homme, mais il est pleinement Dieu, et l'Église elle-même est sainte, mais on ne le sait que trop bien, elle est composée de pécheurs. Les exemples seraient innombrables. Et dans le texte que je vous ai lu, l'introduction de cette conférence à Turin du père de Lubac, on retrouve cette même confrontation, si vous avez le texte sous les yeux, il me semble que c'est le texte 2, on retrouve cette même confrontation entre, d'une part, ce que notre temps exige, que j'ai dû vous mettre en italique pour vous aider à le voir, et puis, d'autre part, ce que le père de Lubac appelle les exigences permanentes de notre foi. Vous voyez ces deux polarisations. Voilà le donné de départ, on pourrait dire. D'un côté, la réalité du monde s'impose. Un peu plus loin, je ne vous l'ai pas mis dans les feuilles, mais le père de Lubac écrit « Nous assistons en tout ordre de choses à de grands bouleversements. C'est une vraie mue qui s'opère. » Mais ce donné fait face à un autre aspect de la réalité, ce que donc le père de Lubac appelle les exigences permanentes de notre foi, ce qu'il appelle un peu plus loin la vérité catholique, avec ce qu'elle a d'intemporel. Alors nous voilà confrontés à ces deux pôles antagonistes, et la question c'est quelle attitude avoir? Et pour répondre à cela, dans cette conférence à Turin, Henri Lubac raconte un fait dont il a été témoin. Alors j'en retiens l'essentiel. Une excellente dame, selon ses mots, comme vous êtes nombreuses parmi nous ici, une excellente dame, dit-il, raconte-t-il, une bonne douzaine d'années à servir l'Église dans la perspective d'un renouveau du catholicisme. Mais cette dame, s'apercevant que tout ne lui convenait pas et qu'une tendance opposée se faisait jour, a fait le choix de quitter ce pour quoi elle s'était d'abord dépensée. Alors, dans la conférence à Turin, après avoir raconté cette petite histoire, un peu banal, a priori, le père de Lubac, en réalité, va interroger le choix de cette dame. Vous avez le texte sous les yeux, je n'ai pas les numéros à les voir. Le texte 3, il dit ceci, « Elle avait constaté, dans le milieu au sein duquel elle s'était d'abord dévouée, certains défauts qui la menaient à brûler ce qu'elle avait longtemps adoré. Elle regagnait le camp intégriste, croyant cette démarche nécessaire pour mettre sa foi en sûreté. Or, elle avait doublement tort. Tort de faire un tel choix, tort, en premier lieu, d'accepter le dilemme ou le divorce qui la forçait à faire un choix. » Alors, je voudrais m'arrêter ce soir avec vous sur le second tort que Lubac souligne ici. Le tort, dit-il, d'accepter le dilemme, c'est-à-dire de choisir un camp aux dépens de l'autre. Parce que cette détermination-là, ce choix-là, contredit le principe du paradoxe. Or, pour Henri Lubac, la vérité chrétienne est précisément lié à l'équilibre vécu dans ce tiraillement perpétuel de la vie évangélique. Je vous ai proposé dans les feuilles un petit texte tiré de son ouvrage qui s'appelle précisément Paradoxe. C'est le texte 4, il me semble, c'est ça, oui. Les oppositions, écrit Henri de Lubac, les oppositions qui sont dans la pensée expriment la contradiction qui est dans l'étoffe même de la création, qui permet le mouvement d'histoire et que ce mouvement a pour fin de surmonter sans jamais y parvenir. Vous voyez, dans cette conférence donnée à Turin, Lubac insiste fortement. Entre les deux réalités auxquelles la foi chrétienne nous confronte, c'est-à-dire, je le rappelle, d'un côté les exigences du temps présent et de l'autre côté les exigences permanentes de la foi, entre ces deux réalités, écrit Lubac, et c'est le texte 5, il n'y a pas à choisir, absolument pas. Tout choix serait ici meurtrier, même de ce que l'on croirait choisir. Tout choix, s'il devait être absolu, serait finalement fatal au christianisme même. Voilà, je finis ce premier temps. J'ai attiré l'attention sur le respect de cette polarisation. Et je voudrais maintenant vous montrer comment le père de Lubac aide à accepter ce tiraillement de la pensée et de la vie chrétienne. Est-ce que ça va? Vous arrivez à me suivre? Alors, deuxième temps, une valse à quatre temps. J'avais parlé au début d'une triangulation avec un point central. Mais le père Christophe Delègue, qui a relu mon texte de ce soir, m'a dit que c'était un peu compliqué de suivre. Et j'ai compris que Christophe avait envie de danser, donc j'ai appelé ça la valse à quatre temps. Comment est-ce que le père de Lubac aide-t-il, dans sa manière de réfléchir la théologie, comment aide-t-il à honorer ce paradoxe, les paradoxes de la vie ou de la foi chrétienne? C'est la question à laquelle je voudrais essayer de répondre dans ce deuxième temps. Pour nous aider, le père de Lubac met généralement en valeur quatre éléments de la réflexion. C'est-à-dire que confronté à une opposition permanente entre deux pôles, comme on l'a vu tout à l'heure, il fait généralement ressortir deux autres réalités. Et en repérant la place de ces quatre réalités et leurs fonctions les unes par rapport aux autres, le paradoxe est respecté et il est pleinement fécond. Alors la première chose que Lubac ajoute à ces deux pôles antagonistes, c'est une réalité qui surplombe ce à quoi la vie confronte immédiatement. Dans la conférence qu'il donne à Turin, le texte 1, si je reviens au texte 2, qui était l'introduction de cette conférence à Turin, dans cette introduction, le père de Lubac parle de fidélité. Vous l'avez vu, à la fin du texte 2, ces mêmes problèmes de notre temps, nous pourrons les voir avec plus de chances de fidélité entière. Alors, de quelle fidélité s'agit-il? Un peu plus loin, dans cette conférence à Turin, Lubac parle du don reçu de Dieu. Pour lui, au-dessus des deux réalités qui s'opposent, d'une part, les exigences du temps, et d'autre part, les exigences permanentes de la foi, il y a un troisième élément qui émerge, et c'est Dieu lui-même qui se donne. Et en intégrant ce troisième élément, il s'agit pour Lubac d'accepter une position de réceptivité. L'enjeu, comme il le dit lui-même, c'est, et c'est le texte 6 que vous avez, l'enjeu c'est de ne pas laisser réduire à des idées humaines et à des sentiments le don que nous avons reçu de Dieu. Pour cela, continue-t-il, s'il ne faut jamais orgueilleusement se durcir ou craintivement se replier, il faut savoir se recueillir, se concentrer, s'affermir. Vous voyez, devant les contradictions auxquelles la vie moderne et la foi chrétienne confrontent, Lubach a l'habitude d'inviter d'abord à une attitude religieuse. Il s'agit d'être fidèle au don que Dieu veut faire de lui-même. Et pour cause, je vous invite à lire le texte 7. Lubach nous interpelle. Ne croyons pas trop vite, dit-il, posséder la vérité catholique tout entière. Au contraire, dit-il, soyons même assurés que nous n'y sommes pas parvenus tant que nous ne nous laissons pas posséder par elle. Vous voyez, les oppositions irréductibles, celles du paradoxe, sont une invitation faite aux croyants à se laisser déposséder d'un choix exclusif vers lequel ce même croyant est peut-être ou serait peut-être naturellement porté. Appelé par le Très-Haut, le croyant est invité à rester serviteur d'une réalité qu'il dépasse. Et sans cela, nous interpelle Lubach, quoi qu'on en dise, nous transformons le don de Dieu en réalité humaine et mondaine. Voilà le premier point, le troisième en réalité, point, élément que Lubach apporte pour aider, vous l'aurez compris, à honorer le paradoxe auquel la vie ou la foi chrétienne nous confronte. Et à cet élément surplombant, Lubach ajoute encore un quatrième élément. Et j'aurais aimé le situer comme une médiation entre les pôles antagonistes du paradoxe. Ça va, vous me situez ? Il y a les deux pôles, un pôle surplombant, et puis au milieu, au centre, il y a encore un autre élément, un quatrième élément, qui est une médiation entre les deux réalités qui s'opposent. Si je reviens à nouveau à l'introduction de Turin, le texte 2, vous aurez remarqué, je l'ai mis en italique pour vous aider à le voir, vous aurez remarqué qu'il y a trois types d'exigences. Celle du monde, on l'a vu tout à l'heure, celle de la tradition, ou ce qu'il appelle les exigences permanentes de la foi, on en a déjà parlé. Et puis, il y a une autre expression que j'ai passée sous le silence pour le moment. Lubach parle également des exigences actuelles de la foi. Et du reste, c'est cette expression qu'il a retenue, pardon, pour le titre de sa conférence à Turin. Qu'est-ce que Henri de Lubach met derrière cette expression, les exigences actuelles de la foi ? Il met ce que M. Guin relevait tout à l'heure, l'aggiornamento, comme on l'a dit beaucoup au moment du concile, c'est-à-dire le renouvellement du trésor de la foi que nous avons reçu. Regardez ce qu'il dit au texte 8, l'exigence de la foi, écrit Lubach, c'est de procéder sans cesse, car ce n'est jamais fini, jamais acquis une fois pour toutes, à cet aggiornamento, donc le renouvellement, sous le signe duquel l'Église tout entière est aujourd'hui particulièrement conviée. Vous voyez qu'entre les deux réalités auxquelles la vie confronte et que la position de serviteur apprend à respecter, Lubac situe un espace de rencontre et d'échange mutuel. On peut lire ensemble le texte 9 pour vous aider à sentir ce qu'il met derrière ce lieu d'échange. Et là, la formule est très forte et elle ressemble bien à ce que Lubac porte et déploie dans toute son œuvre. C'est dans une fidélité plus entière à la tradition qu'on puise le principe du renouvellement toujours nécessaire. Et il ne faut jamais oublier le deuxième élément, évidemment, c'est dans ce renouvellement même et uniquement en lui qu'on se trouve pleinement fidèle à la tradition. Vous voyez que les exigences du monde rencontrent les exigences permanentes de la foi. Les deux se fécondent mutuellement pour, en dépendance du don de Dieu, ouvrir un chemin de vie. Voilà, je vous ai exposé cette valse à quatre temps, c'est-à-dire une structure dynamique que le père de Lubac utilise souvent et qui le met au service de la vie de l'esprit. Alors, vous ne trouverez pas dans l'œuvre de Lubac de systématisation de cette manière de penser, mais je vous livre ici le fruit de mon travail et de mes lectures. Tout part de Dieu qui se donne. C'est ce que j'ai appelé l'élément englobant ou surplombant, l'élément qui embrasse tout le réel. Mais le don de Dieu nous atteindra toujours de manière paradoxale. Et ce sont les deux pôles antagonistes par lesquels la révélation de Dieu nous atteint. Et donc, accepter ce tiraillement sans exclusivisme conduit à accepter ou à accueillir un quatrième élément, l'élément central, l'espace ou le temps de rencontre des deux éléments antagonistes qui, dans leur opposition radicale et qui resteront toujours opposés, s'enrichissent et s'élèvent mutuellement. Très souvent, la réflexion lubacienne se déploie ainsi en fonction du mouvement que ces quatre éléments permettent. Est-ce que je ne vous ai pas trop perdu dans cette valse à quatre temps? Ça va? Alors, pour terminer cette petite communication, je voudrais poser la question avec vous. Au fond, quelle est la perspective ultime de cette danse théologique, si on pouvait dire les choses ainsi? Et donc, c'est le troisième temps de mon propos de ce soir, la recherche de l'unité au service de la vie. Dans la théologie d'Henri de Lubac, sans qu'il l'explicite souvent, l'unité est pourtant l'horizon permanent. Si jamais vous feuilletez ce prier 15 jours avec Lubac, vous verrez que le jésuite revient souvent à cela. L'enfer, par exemple, pour Lubac, dans la continuité des pères de l'Église, c'est la perte d'unité originelle. Vous pourrez le trouver au troisième jour. À l'inverse, la croix du Christ ouvre un chemin d'unification de toute la création. C'est le dixième jour de ces 15 jours. Donc l'unité est l'horizon de toute la pensée de Lubach. Et je reviens à la conférence de Turin, où notre auteur donc dénonçait dans l'attitude de cette excellente dame, ce qu'il dénonçait finalement, c'est le fait d'avoir renoncé à l'unité. Regardez ce qu'il dit, c'est le texte 10. Elle avait accepté, cette excellente dame, d'avoir à faire un choix entre deux catholicismes. Elle avait ratifié le dilemme, constatant une coupure trop réelle entre deux partis. Elle en avait pris son parti, elle avait pris parti. Or, c'est ce que le chrétien n'a pas le droit de faire. Disons mieux, c'est ce que le chrétien ne peut pas se résigner à faire. Celui qui s'efforce, comme dit saint Paul, de revêtir les sentiments du Seigneur Jésus, ne désespère jamais de l'union. Le vrai chrétien n'est pas aveugle au fait de la désunion, mais il en souffre, il cherche à le surmonter. Alors on pourrait se poser la question au fond, pourquoi cette obstination pour l'unité? Eh bien, pour Henri Lubach, la réponse est nette. Si la recherche de l'horizon n'est plus, si la recherche de l'union n'est plus l'horizon de l'intelligence et de la mise en œuvre de la foi, le catholicisme que l'on prétend soutenir sera confronté à un danger très grave. Et là, je vais m'appuyer sur les carnets du Concile d'Henri de Lubach, c'est-à-dire son journal personnel entre 1960, la période de préparation du Concile, et qui se termine le 8 décembre 1965, le jour de la clôture du Concile par Paul VI. Dans ces carnets du Concile, à la date où il donne cette conférence à Turin, Henri de Lubach note ceci, et c'est le texte 11 que vous avez sur les feuilles. À 18h, dit-il, au théâtre Carignano, conférence en français. Les exigences actuelles de notre foi, le titre de la conférence, généralité, mais contre l'humanisation de la foi, et dans le sens de l'aggiornamento de Jean 23, différence soulignée entre conservatisme et esprit traditionnel. Vous voyez que le danger que court la foi chrétienne, selon Lubach, lorsque celle-ci renonce au paradoxe, au fond, c'est l'humanisation de la foi. Alors, pour comprendre cette idée d'humanisation de la foi, je voudrais la mettre en relation avec une expression que le père de Lubach, dans « Méditation sur l'Église » en 1953, reprend à un abbé bénédictin anglais, comme quoi le père de Lubach est très ouvert. Anglais. Don Vaunier est un abbé bénédictin anglais qui est mort en 1938 et qui écrivait ceci. Vous avez le texte, c'est le texte 12. Nous entendons par mondanité quelque chose de plus subtil que ce que l'on veut dire habituellement par ce mot. Il signifie généralement l'amour des richesses et du plaisir sévissant chez les dignitaires de l'Église. C'est certainement un mal, mais non le principal. La mondanité spirituelle, si elle devait envahir l'Église, serait pour elle beaucoup plus désastreuse. Nous appelons ainsi ce qui, pratiquement, se présente comme un détachement de l'autre mondanité, mais dont l'idéal moral, voire spirituel, serait, au lieu de la gloire du Seigneur, l'homme et son perfectionnement, une attitude radicalement anthropocentrique, voilà la mondanité de l'esprit. Soit dit en passant, cette expression mondanité de l'esprit, on la retrouve chez le pape François dans la joie de l'évangile, Evangelii Gaudium, au paragraphe 93 à 97. Et le pape François cite Henri de Lubac, lui-même citant Dom Bonnier. Voilà quel est le danger du catholicisme quand il prend parti, c'est-à-dire quand il refuse le tiraillement du paradoxe. C'est l'humanisation de la foi ou encore la mondanité spirituelle, c'est-à-dire la réduction du don de Dieu à une force humaine. Honorer ou servir la révélation de Dieu, pour Henri de Lubac, supposera toujours d'accepter humblement d'être tiraillé par une opposition irréductible. Et ce paradoxe inhérent du christianisme est précisément, selon lui, la source de toute fécondité. Il invite ce tiraillement au détachement et à la recherche de l'unité, d'où peut jaillir la vie de l'esprit. Alors, je conclue. Peut-être que cette présentation vous aura surpris. Vous vous attendiez à ce que je présente plus immédiatement le prier 15 jours qui vient de sortir. Mais, confiant dans le fait que vous pourrez le découvrir à votre rythme, là, mon frère m'a appelé, parce que je lui ai envoyé un numéro quand même. Il m'a dit, mais 15 jours, ça peut être 15 mois, ça peut être 15 ans. Donc chacun son rythme. Confiant dans le fait que vous pourrez découvrir ce livre, j'ai préféré vous partager ce qui m'a impressionné dans l'œuvre du jésuite et qui, au fond, est à l'origine de ce petit ouvrage. J'ai découvert chez un homme dont la connaissance de la tradition chrétienne est immense, une liberté d'esprit et d'action étonnante. Or, je vois qu'à notre génération, et je suis bien placé pour le voir, des clivages se durcissent. Et j'observe que bien souvent, ces clivages sont liés à un défaut de culture théologique et d'intelligence du mystère. Alors, en m'appuyant sur la structure des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, dont Henri de Lubac est un membre, j'ai donc proposé, dans ce prier 15 jours, autant d'étapes pour découvrir la richesse de l'œuvre lubacienne. Et dans la présentation de ce soir, je voulais vous donner un petit aperçu de ce à quoi une telle œuvre pourrait conduire. Et je le dirais ainsi, accepter d'être fidèle à l'Évangile, à la manière de l'Évangile. Et pour cela, Lubac nous apprend, en acceptant les quatre éléments grâce auxquels la révélation de Dieu nous touche, à ne pas abandonner la perspective d'unité que le Christ est venu éveiller. Contre le danger d'humaniser ou de mondaniser la foi, et comprenez-le, qu'il s'agisse du traditionnalisme ou du libéralisme, du modernisme ou de l'intégrisme, et les deux sont dans le même panier, le Seigneur invite un perpétuel renouvellement de la foi. Et je termine avec le dernier texte, le texte 13 que vous avez sur vos feuilles. Les paroles du Seigneur, dit Henri de Lubac, sont esprit et vie. On ne les conserve qu'en en vivant, qu'en les faisant fructifier, qu'en s'inspirant d'elles pour répondre au jour le jour à tous les problèmes de l'existence humaine. Je vous remercie.
Merci Père de nous avoir introduit la démarche du père de Jacques, de manière que vous avez décontenancé, mais nous allons pouvoir, en vous posant des questions et en échangeant, remettre nos esprits en ordre, comme avec une boussole, puisque vous nous avez donné un texte et un fil conducteur. Donc, l'échange. Et donc, je donne la parole à qui veut bien commencer.
Thibault. Merci beaucoup pour cette conférence, mon père, c'est vraiment passionnant d'être ici. Et sans vouloir chercher la petite bête, ce qui ne serait pas mon caractère, pour essayer de mettre des définitions sur les mots, j'aimerais savoir ce que vous entendez par traditionnalisme. Personnellement, je connais bien, je connais un peu ce qu'on appelle aujourd'hui par traditionnalisme et son milieu. Et je constate qu'il est très lié avec la perpétuation de la contre-révolution, notamment dans la pensée de Marcel Lefebvre, la recherche de retrouver, entre guillemets, le monde pré-révolutionnaire et la lutte contre une vision de l'homme autre que centrée et qui serait libérée des entraves de la religion. Est-ce que c'est ça, une forme d'humanisation de la vie spirituelle, d'après le père Henri Lubac ?
Alors, tu as utilisé plusieurs expressions. Comme l'a proposé M. Gain, une chose après la valse, on va se calmer, quoi. Donc, la première chose, si je reprends ce que Lubac écrit dans son carnet du Concile, d'accord, pour aider à voir ce qu'il met derrière les mots, il dit « différence », c'est texte 11, hein, « différence soulignée entre conservatisme et esprit traditionnel ». Ce que Lubac appelle l'esprit traditionnel, c'est précisément le fait de vivre la tradition chrétienne, non pas en la conservant dans un musée, mais en nous tirant les réponses pour les exigences actuelles. Ça va ? Donc ça, c'est ce qu'il appellera l'esprit traditionnel, la tradition avec un grand T, tu peux l'appeler comme tu veux. Quand il parle ici, dans la conférence à Turin, de traditionnalisme ou de conservatisme, ce serait plus ce que tu décris là tout à l'heure, comme étant une volonté d'arrêter le courant de l'histoire de l'Église à un moment donné de l'Église. D'accord ? Donc ce que tu dis, toi, Thibault, en parlant de l'esprit ou de la césure, disons, de la Révolution. Donc, voilà. Après, effectivement, les termes de Lubac peuvent bouger, mais ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est que quand il parle ici de traditionalisme, en tout cas, c'est ce qu'il veut mettre à distance, comme le choix de cette fameuse dame-là, qui a opté pour un pôle au dépens de l'autre. D'accord ? Après, je ne rentre pas dans les détails politiques de ta question, si tu permets, parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais en tout cas, retenons la distinction que je trouve très juste dans le vocabulaire de Lubac entre l'esprit traditionnel et l'esprit catholique, tout simplement, et le conservatisme. Et l'enjeu là-dedans étant de ne pas utiliser, pour le dire autrement, de ne pas utiliser l'Évangile pour des fins humaines. Peut-être que c'est comme ça qu'on pourrait dire les choses quand il parle d'humanisation de la foi ou de mondanité spirituelle, c'est-à-dire qu'on utilise l'Évangile à des fins humaines. Et ce que dit bien de Lubac, c'est que c'est un danger récurrent pour ceux ou celles qui seraient tentés, comme cette fameuse dame, de faire un choix. Ça va, c'est clair ou pas ce que je te raconte ?
Très clair, merci.
Alors, je lirai juste un petit passage que je ne vous ai pas mis et qui est assez intéressant. Parce qu'il prend un exemple à propos du traditionnalisme. Et ça va rejoindre ta question quand même un peu, la Révolution. Il parle de Bossuet. Hein, je ne connais plus les dates de Bossuet, mais ça doit être à peu près par là, quoi.
Oui. C'est clair.
Les gens bien plus lettrés que moi ici.
Louis XIV.
Louis XIV, parfait. Comment va-t-il? Alors, il parle de Bossuet, et Bossuet, vous savez, a eu une certaine évolution, et puis Bossuet s'est un peu raidi sur la fin de ses jours. À faire comme le vieux Bossuet, écrit-il, on est un tout. On décourage tout le monde, on brise les armes les plus efficaces et finalement, plus rien ne s'oppose à l'envahissement du mal. Bossuet l'emporta contre Richard Simon. Il l'emporta contre les missions des jésuites, c'est le père de Lubac qui parle, contre le père Caffaro, je ne sais plus qui c'est, contre Malebranche, contre Fénelon. Bossuet a cherché à dénoncer le mal partout, quoi, vous voyez. Et regardez ce que dit Lubac. Mais ce n'est pas lui, Bossuet, ou la cause qu'il pensait représenter, ce n'est pas la foi catholique qui devait profiter de toutes ces victoires. C'est Voltaire, c'est l'encyclopédie, c'est l'antichristianisme desséchant du XVIIIe siècle avec toutes ses séquelles. Je trouve que c'est un très intéressant lieu d'interpellation pour nous et pour notre temps où les clivages ont tendance à s'accentuer, il faudrait peut-être qu'on se dise attention à ce qu'on fait. Qui va profiter de ça? Au XVIIIe siècle, c'est Voltaire. Ce n'est pas le catholicisme. C'est intéressant. J'ai fini. Ça va?
J'ai une question à distance. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, on m'entend très bien.
Ah, merci. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était très lumineux ce travail sur l'unité en tenant ce paradoxe ou cette dialectique. Je me dis, j'entends bien qu'on a des moyens pour tenir ça, mais concrètement, comment tenir ces deux axes du paradoxe, enfin, ces deux pôles du paradoxe pour nous tous qui ne sommes pas de grands intellectuels. Et ma question, c'est peut-être aussi une question sur la formation. En tout cas, je me dis qu'il y a un challenge à tenir sur les espaces d'échange et de rencontres, ces espaces d'échange et de rencontres qui peuvent sans doute aider à l'unité, mais encore faut-il qu'ils puissent être encadrés, qu'ils puissent être des gens formés s'il y a tel. Est-ce que tu as une vision sur ce sujet?
Donc, le président du CTM invite à s'inscrire au duet. Vous l'aurez compris. je ne sais pas comment répondre parce que si j'ai écrit ce bouquin, c'est dans l'espoir, le petit espoir, que justement ça participe à découvrir une œuvre qui est riche, qui n'est pas toujours facile. Plusieurs, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont regardé ou qui le regarderont, mais plusieurs ont dit que certains textes, il fallait s'accrocher un peu quand même, quoi. Et je le comprends. Enfin, Lubac n'a pas une langue très compliquée en soi, mais c'est quand même une tournure d'esprit théologique qui est particulière. Vous l'aurez peut-être vu un peu dans les textes que j'ai lus là. C'est sûr que c'est pas le Figaro Madame, quoi. Enfin, j'ai rien contre le Figaro Madame, que je ne sais pas d'ailleurs. Moi, je me dis qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que le don de Dieu est premier, et c'est ça qu'il faut chercher sans cesse à honorer, et je ne vois pas d'autre moyen que de lire les Écritures. Nous sommes fondés dans la parole que Dieu adresse à son peuple. À Saint-Jean, il y a une jeune qui, en ce moment, lit la Bible. Je trouve ça admirable. Elle est passée par le Lévitique. Autant vous dire qu'elle a passé des moments particulièrement consolants. Mais je trouve ça admirable. Alors, ce n'est pas toujours simple. On cède, on pose des questions, voilà. Mais je trouve qu'il y a un enjeu à lire les Écritures, d'abord, et à prier avec les Écritures. Ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir pas mal d'outils pour se former ou en tout cas découvrir un peu la richesse de la tradition chrétienne. Après, il y a de tout, il y a tout et rien, et c'est le problème d'Internet. J'aurais plutôt tendance à inviter à acheter un bouquin qu'à regarder un podcast, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Bon, mais ça, c'est un avis assez personnel. Et après, l'autre chose que je perçois ou que je vois, en tout cas, notamment chez les jeunes que j'accompagne, ou certains d'entre eux en tout cas, c'est la nécessité de se confronter à la pensée de l'autre. On n'est pas chrétien tout seul. On n'est pas chrétien tout seul. Et donc, on ne peut pas penser et vivre de l'Évangile tout seul. Et il faut accepter de se confronter à la pensée de l'autre. Et je me dis que si dans notre Église et dans nos communautés paroissiales ou autres, religieuses ou autres, on peut s'aider et créer des lieux d'échange en lisant un texte et en s'écoutant mutuellement et en cherchant ensemble ce que tel ou tel texte cherche à dire, je pense qu'on se donne là des moyens pour ne pas partir dans le panneau. Et puis, peut-être un autre élément de fond, c'est ce que dit Lubin quand il dit « Personne ne possédera la vérité tout entière ». Et tant qu'on n'aura pas accepté d'être nous possédés par la vérité, qui est le Christ, on pourra dire, on pourra défendre tout ce qu'on veut. Mais le grand risque, encore une fois, c'est d'humaniser la foi, la mondanité spirituelle, c'est-à-dire d'utiliser l'Évangile pour nos propres fins. Et là, je ne sais pas ce que vous diriez, mais on a des exemples d'abord en nous, hein, puisque on est tous pécheurs, hein, mais là, on a des exemples. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, Bertrand, j'ai l'impression de ne pas du tout y répondre, si ce n'est que bah, acheter le bouquin, parce que de toute façon, les royalties sont reversées à la paroisse Saint-Joseph pour la réparation de la basilique.
Je vous remercie à l'avance. Par rapport à ce que tu viens de dire, la citation du Père Meunier m'a fait penser à une question qui a été faite sur la perversion spirituelle du Père Marie. Et donc, je me demandais si finalement l'Église n'était pas rentrée en fait dans ce plan désastreux.
Oui. Répétez, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas encore vu. Est-ce que vous pouvez répéter
je disais que la citation du Père Meunier me faisait penser aux révélations sur la perversité spirituelle du Père Marie-Dominique Philippe, et que finalement l'Église était peut-être déjà rentrée dans le temps du désastre.
Je vais lire un passage de la conférence à Turin, d'accord ? Lubac dit ceci. Il n'y a jamais de révolution proprement dite à opérer dans l'Église, comme il peut y en avoir dans la société civile, parce que même dans les cas les plus défavorables, c'est là où ça rejoint un peu ce que tu dis, même dans les cas les plus défavorables, dans les circonstances les plus tristes, jamais l'Église ne peut avoir totalement failli à sa mission. Elle a reçu les promesses de la vie éternelle et l'Esprit de Jésus-Christ est toujours là, vivant en elle, même si son souffle paraît momentanément éteint pour la garder des errements mortels. Jésus paraissait dormir sur le lac, dans la barque de Pierre, mais il était là, prêt à se réveiller et à agir au moment critique. L'Esprit de Jésus, au cours de l'histoire, paraît quelquefois s'assoupir, mais ses réveils sont parfois aussi brusques qu'inattendus. Pas davantage, n'y a-t-il jamais à se contenter dans l'Église, comme peut-être parfois dans la société civile, je ne sais, d'une simple conservation. Autant l'esprit traditionnel est admirable et nécessaire, autant un esprit purement conservateur est non seulement insuffisant, mais gros des plus graves dangers. Donc, moi, ce que je crois, pour répondre à ta question, Fabrice, c'est que on se laisse plus facilement gagner que qu'on ne peut le croire par cette mondanité spirituelle. Et que la grosse difficulté qu'on a tous, et on en a des exemples désastreux autour de nous, c'est sûr, c'est encore une fois qu'on a utilisé l'Évangile pour nos propres fins. Et le père du Lubac, à 60 ans d'écart, parle à un moment donné des abus. Quand il parle de la conservation Il dit, peut-être en croyant conserver, cherchons-nous en réalité à consolider des abus datant d'hier ou d'avant-hier. C'est des mots qui sont d'actualité. Hein. Donc, qu'il y ait eu et qu'il y ait encore dans l'Église des personnes, et peut-être qu'on peut se regarder nous-mêmes d'abord, qui soient gagnées par l'humanisation de la foi, parce qu'on n'a plus accepté ce tiraillement-là, ça c'est sûr. Après, moi j'aime bien ce que nous a dit, le père de Kerimel, quand il disait, il témoignait de ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu le dire, mais il disait, quand j'étais séminariste, je ne comprenais pas pourquoi l'Église avait du mal à avancer, à se renouveler. Et il disait, il se souvient du pape Jean-Paul II, alors je crois que c'est en 86 quand il est venu à Paris, donc Kerimel devait être, je ne sais plus si c'était déjà prêtre ou pas, bon, bref. Mais il dit, on a vu le pape jeune, dynamique, etc. Et il dit, ça y est, ça va repartir, quoi. Et puis, encore un temps après, il a dit, mais pourquoi ça a du mal, tant de mal à repartir, quoi. Et il nous disait, il a eu cette intuition forte qu'il y a quelque chose à purifier dans l'Église. C'est ce qu'il nous disait, en tout cas. Et je crois qu'effectivement, on est à cette période de purification dans l'Église que le Seigneur initie et qui est nécessaire pour qu'un élan nouveau reparte. Mais moi, mon observation, et c'était pour ça que j'ai voulu attirer votre attention, ou vous proposer en tout cas de découvrir un peu la figure de Lubac à partir de cette conférence à Turin, mon observation, c'est que devant un travail de purification, le risque, c'est de se raidir et de choisir un camp aux dépens de l'autre. Et ça, je le vois, d'un côté comme de l'autre. Et j'ai vu des personnes jeunes, comme cette dame excellente, brûler ce pour quoi ils s'étaient dépensés avant. Et je pense que pour beaucoup, c'est par peur. Et ça, c'est malheureux. Je ne sais pas si je réponds bien à ta remarque, mais je ne dirais pas en tout cas que toute l'Église est viciée à sa racine, mais je dirais volontiers, par contre, que le vice de certains membres de l'Église, et malheureusement d'un large nombre, au moins pour une période, nous impose un temps de purification nécessaire et qu'il faut, pour ça, accepter ce tiraillement perpétuel. Quoi. Je ne sais pas si je réponds bien, mais...
Si, à la nuance près que tu mets beaucoup l'accent sur le péché individuel, ou... alors que les élèves ont parlé de systémique.
Donc, oui, oui.
Là, on n'est plus seulement dans cette excuse qui est prévalue jusqu'à maintenant de dire oui, l'Église sainte est constituée d'hommes pécheurs. C'est-à-dire que ces hommes pécheurs ont mis en place un système.
Alors attention, parce que le systémique n'est pas un systématique. C'est ça qu'il faudrait regarder. Mais effectivement, c'est une chose à creuser. Peut-être que ce sera un autre aspect, mais. Ce que je crois aussi, par contre, c'est que, enfin, l'impression que j'ai, en tout cas, c'est que de la même manière que si quelque chose de systémique a été mis en place, c'est lié aux failles des personnes, de la même manière, si un renouveau s'opère, c'est grâce à la purification des personnes. Ça passera pas autrement. Et que le bon exemple est que le père de vous êtes pas lu son bouquin, enfin bref, mais si jamais vous tombez sur ce bouquin, je ne sais plus dans quel chapitre c'est, mais je me suis appuyé sur un petit passage où Lubac parle de Saint François d'Assise. Et je crois que Saint François d'Assise, en tout cas le pape François nous le présente comme ça, comme un de ceux qui, par sa conversion personnelle, a permis à l'Église de vivre quelque chose. Donc, voilà.
Le révérend Stern. Le problème vient d'être soulevé, au fond. L'Esprit Saint, Lubac l'a traité dans la postérité spirituelle de Joachim Flore, là. On a cru après le concile, ça va être formidable, on a l'Esprit Saint. Lubac, remarquez, attention, ça, c'est des histoires qui remontent des siècles en arrière, des illusions. on a l'Esprit Saint par le Christ. Quand on a touché au Christ, après on aura l'Esprit Saint. Oui. Quant à Vaunier, attention. Vaunier, il a vécu en Angleterre, mais il était allemand.
Ah oui,
pour vous. Ludovicien, en 48 ans après, pour les faire remonter.
Je m'incline devant la science. Au fond, la jeunesse de Saint-Jean.
Ouais, justement, moi j'avais une question sur ce clivage chez les jeunes. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation scientifique et tout. Je crois que j'ai pas très compris les différents pôles. Exigence permanente de la foi, un peu intégriste, on va dire, pôle 2, exigence du temps, le modernisme. Tout ça sous la coupole de Dieu, et puis un intermédiaire qui permet de se renouveler et la journée à mi-temps. Moi, en fait, juste pour revenir sur ce que je chez les jeunes, moi, en fait, je me sens un peu comme un produit de pôle, en fait. Je suis issu d'une famille traditionnaliste jusqu'à mes 20 ans, j'ai mes tradis, tout ça, mais je me suis par cœur en latin. Et puis, ça fait 10 ans que je prends aussi un peu de distance par rapport à ça. Ça a aussi généré. Alors, il y a un truc les deux familles d'esprit, les deux tendances, tout ça, je pense les percevoir un tout petit peu là, dans le texte 1. Ça a aussi un peu fracturé ma famille du niveau de la foi et tout, cette histoire-là, mais bah, c'est pas. Mais simplement, je pense que. Peut-être qu'il y a un clivage chez les jeunes. Enfin, moi, j'ai encore j'ai plein d'amis encore qui discutent très librement de ma vie là. Ils peuvent aller aux deux formes de la messe, etc. Même autour de cette table, on est différents. Non, parce qu'on n'est pas tout l'idée, justement, et on est tous d'origine un peu différente. Juste, je trouve ça un peu pessimiste de penser ça. Ouais, je pense qu'il y a vraiment tout l'optimisme et qu'on est quand même assez ouvert au dialogue. Et puis, voilà. Moi, ça fait, ouais, j'ai fait 20 ans, on va dire, d'être ami. Là, ça fait 10 ans, il me reste encore 10 ans pour faire et comme ça, je serai équilibré entre les deux. Pour pouvoir un peu comprendre les deux.
Oui, mais je crois que tu as raison. C'est-à-dire que pour un certain nombre de personnes, j'en ai un bon exemple, tu le dis bien. Il y a une. Il y a une liberté de cœur et d'esprit. Je vois que chez certains, ce n'est pas le cas. Et je vois que chez certains, et ce n'est pas que chez les jeunes du reste, hein, mais je vois que chez certains, il y a une recherche d'absolu qui se traduit par une difficulté à accepter les oppositions, à accepter les tiraillements. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas le cas de tous, hein, je suis assez d'accord avec toi. Mais je crois qu'il faut qu'on entende ce que dit Lubach, c'est-à-dire que le véritable esprit traditionnel, c'est la capacité à puiser dans la tradition qui est la nôtre pour répondre aux exigences d'aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on le travaille. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que... un certain nombre de personnes, jeunes ou moins jeunes, ont cette capacité à le faire. C'est pas nécessairement, soit dit en passant d'une crèmerie à l'autre comme ça, qu'on est le plus ajusté. Hein. Je suis pas sûr de ça. Hein. C'est-à-dire que le fait d'aller à droite à gauche et de papillonner, comme dans un supermarché, je suis pas convaincu que ça traduise toujours ce que Lubach appelle un esprit traditionnel. Tu vois. Donc je serai un peu prudent par rapport à ça, parfois, d'accord. Je ne veux pas généraliser, peut-être que Lubach, tu parles de pessimisme, ça a été une des grandes difficultés de la fin de la vie de Lubach. Dans le prier 15 jours, vous verrez à la fin, le père de Lubach a vécu, alors peut-être que là le père Stern en parlerait bien mieux que moi, mais le père de Lubach, et on le voit dans ses écrits personnels, hein, pas dans son travail théologique, mais dans ses notes personnelles, etc., on voit bien que ce qu'a vécu l'Église, ou la manière avec laquelle l'Église a vécu la réception du Concile Vatican II, a été pour lui l'occasion d'une grande inquiétude. Et donc, avec une tendance pessimiste forte, qu'on lui a beaucoup reproché du reste, à commencer par la compagnie de Jésus, les jésuites. Donc peut-être que le texte ou les textes ici peuvent donner cette impression, je suis assez d'accord. Mais pour autant, moi j'aime me laisser interpeller par ce témoin, quoi, et me dire comment est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis pleinement traditionnel, c'est-à-dire puisant dans l'évangile et les origines de notre Église pour répondre aux exigences d'aujourd'hui. C'est mon choix, donc, tu vois, c'est ma recherche. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien, mais en tout cas, j'entends ce que tu dis, qu'on a la chance aujourd'hui.
C'est qu'il y a la chance, il y a quand même un dialogue qui est possible, mais bon, ouais, je ne ferme pas vers...
Ouais, il y a quand même des pas à faire. Hein. non, mais je dis pas ça pour toi personnellement. Hein. Mais chez la justesse et la joie de cet équilibre, il est à travail, il est à accueillir à mon avis. Ouais.
Sur le fait que la pensée du père de Lubac, elle est quand même largement articulée aux enjeux du concile, où finalement les mêmes questions se posent sur les exigences traditionnelles de la foi, telles que l'Église les préconise, et puis les exigences actuelles, c'est-à-dire du monde actuel, et le concile de 1965, et la conférence de Turin, en fait, elle s'y situe exactement au milieu, donc en fait, il est dans le cœur du sujet. Mais ça a toujours été de tout temps, ça. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, il y a des tensions, il y a des résolutions, c'est complètement actualisé. Et quand vous aviez même parlé du Lévitique, c'était une réponse de Dieu à son peuple dans un temps donné. Et on devient infidèle parce qu'on prend quelque chose de ça, on l'actualise dans notre vie. Donc, je veux dire, la préoccupation du père de Lubac est une préoccupation, je dirais, permanente dans l'histoire de l'Église. Et bon, on parlait de crèmerie, moi, je dirais que ce n'est pas vraiment la grande question qui pèse aujourd'hui. Si on pense que la question, c'est effectivement, est-ce que l'homme d'aujourd'hui... s'ajuste, justement, il peut s'ajuster encore, tu y en laisses une seule petite place. Est-ce qu'on n'évacue pas, tout simplement, le spirituel, tout simplement, je veux dire. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses bien plus efficaces autour de nous. Vous comprenez ?
Voilà.
C'est la question de la foi, c'est un sujet qui est le paradoxe, il faut le vivre. C'est quotidien, en fait, ce paradoxe.
Oui, sauf que c'est pas si simple. Il y a Rémi qui voulait dire un truc.
Justement, par rapport à ce qui vient d'être dit justement, et aussi par rapport à ce que Magli a présenté. Par rapport du coup à ce qui vient d'être dit, par rapport à ce qui est dit aussi dans le texte 10 et puis un peu dans le 3. Est-ce que pour Henri Lubac, ce choix entre catholicisme et coupure, qui a l'air quand même de voir, il fait référence là, j'essaie de comprendre, à quelque chose de ponctuel au sens ce qui entoure le Concile Vatican II ou peut-être un peu plus large avec le monarchisme, ou est-ce qu'il voit quelque chose qui a toujours été une réalité dans le catholicisme au sens plus large du christianisme et qui s'est manifesté auquel peut-être il rattache des éléments beaucoup plus lointains comme la réforme protestante ou le monarchisme. Je ne parle pas là de la simple du simple paradoxe, mais vraiment de la coupure en deux catholicismes dont il parle quand il explique qu'il dit qu'on justement ne devrait pas se...
Je pense que quand Lubac parle de ça, de ce traditionalisme ou intégrisme et puis libéralisme de l'autre côté, en fait, je pense qu'il parle d'abord, et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, de son expérience. Parce que Lubac a été... Lubac a écrit son premier ouvrage date de 1938, « Catholicisme ». Et l'œuvre de Lubac jusque dans les années 50, qui est la date vous verrez dans ce petit ouvrage qui est la date de sa, de son éjection de la Cato de Lyon, où il était prof depuis 1929. Lubac a été à la fois admiré pour sa science et pour sa capacité à récolter la richesse de la tradition chrétienne. Il a été aussi vu à cette période-là, précisément, comme un affreux moderniste. D'accord ? Et pour comme quelqu'un qu'il fallait mettre de côté parce qu'il était dangereux pour la sainteté de la vie de l'Église. Quoi. D'accord ? Et puis, après le concile, devant les difficultés ou les soubresauts, enfin, je ne sais pas comment vous le diriez, vous êtes plusieurs à l'avoir vécu, bien mieux que moi, de la réception du concile, là, il a été calqué, il a été vu comme un affreux traditionnaliste et justement quelqu'un incapable de s'adapter. Donc, quand Lubac parle de cette polarisation, je crois qu'il parle d'abord, il l'exprime à sa manière, avec délicatesse et avec prudence, ce que lui, il a perçu et les cases dans lesquelles il a été mis. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, après, ce qu'il dit ici, il le dit, tu vois l'exemple de cette femme dont il parle à Turin. Bon, à mon avis, ça rejoint, effectivement, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, toute l'histoire du christianisme. L'arianisme, c'est le même problème qui est derrière. Au 4e, 5e siècle, c'est exactement les mêmes problématiques. Donc, c'est un problème récurrent. Ce qui est récurrent, donc, et c'est ça que je trouve intéressant à voir chez Lubac, c'est la difficulté qu'on aura toujours à accepter de ne pas tout maîtriser, en fait, et donc d'être perpétuellement tiraillé. C'est les problèmes de pastoral. Quand on pastoral, on accompagne quelqu'un avec son histoire, avec ce qu'il est. C'est bien d'avoir le catéchisme à côté, et, truc, c'est utile, hein. Mais sauf que ça ne suffit pas de découper les pages du catéchisme et de dire à la personne qu'on accompagne, ben, mets ça en exécution et puis ça ira mieux. Ben, personne ne fait ça, enfin, sauf quelqu'un qui n'est pas pasteur, justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est perpétuellement le problème, les exigences du temps. Une personne qui vient me voir, quelqu'un qui vient parler, qui se pose des difficultés, qui est confronté à telle histoire, tel aspect de son histoire, et puis les exigences permanentes de notre foi. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, on va apprendre. Et on va chercher ensemble, quoi. Donc, ce que je trouve beau dans l'intuition de Lubac, c'est que c'est précisément en cherchant ensemble qu'on est traditionnel. C'est ça qu'il est en train de dire. En acceptant de ne pas tout maîtriser, en acceptant que ce qu'on est appelé à servir nous est donné par Dieu, et en cherchant à l'actualiser, c'est là qu'on est traditionnel. Tu vois, je ne sais pas si je réponds bien à ce que tu as remarqué.
Plus encore. Pardon,
je ne sais pas très bien comment poser ma question, mais c'est à propos de vous parler de comment lire l'Évangile. Et moi, je crois à un courant quand même qui augmente comme une interprétation. Alors moi, c'est le texte 6 qui, par rapport à ma question de tout, c'est le libéralisme, justement. Et réduire à des idées humaines et des sentiments le don que nous avons reçu de Dieu. Comment lire l'Évangile? Moi, j'entends, oh, l'Évangile, il y a beaucoup de mythique. C'est un langage hébraïque, de style mythique. Et donc, il ne faut pas accorder foi à des choses qui ne sont pas historiques. Par exemple, tu ne vas pas croire, toi, scientifique, que Jésus a marché sur les eaux. Non, attends. C'est simplement un aspect mythique, non réel, mais pour dire ben, la conversion, que Jésus, que la Vierge Marie, enfin la Vierge, que Marie n'est pas Vierge, que, enfin, et là, c'est vrai que je suis d'accord avec vous qu'il faut pouvoir s'écouter mutuellement et écouter ces questions. Mais il y a quand même, au niveau de la tradition, est-ce que c'est du conformisme de croire ces faits-là? L'image, tout ça, c'est du mythique.
Je vous renvoie au cours d'introduction du Nouveau Testament du Duet, non? Il se fait toujours. Non, mais il faut voir ça avec des exégètes. Hein. Moi, je ne suis pas exégète. Je dirais simplement une chose. Non, mais je dirais simplement une chose pour répondre à la question. C'est ce que au moment de la crise moderniste, donc au moment où Lubach a commencé à écrire. Le premier article de Lubach, c'est 1929. Donc, au moment où Lubach commence à écrire, on est en pleine crise moderniste. Et qu'est-ce que c'est que la crise moderniste? Elle vient, la crise moderniste, de l'application à la Bible, précisément, et de manière plus large aux sciences théologiques. Elle vient de l'application à la Bible des connaissances et des modes de travail historiques, etc. Donc, je crois que ce qui a aidé, enfin, je fais très court, mais ce qui a permis de sortir de la crise moderniste par le haut, c'est ce que les exégètes ont invité à faire et que le pape, alors il me semble que c'est Pie XII dans le texte que vous retrouverez. Divino Afflante Spiritu. Divino Afflante Spiritu. 43, bien sûr. C'est ce que Pie XII dit quand il dit il faut, quand on lit les Écritures, chercher l'attention de l'auteur. C'est ça qu'il faut chercher. Et après, pour ça, inscrivez-vous au cours du duel. Ils sont excellents. Et les autres, bien sûr. Mais non, vous voyez ce que je veux dire, on ne va pas rentrer dans le détail de la critique littéraire, parce que sinon on ne s'entend pas.
Pour moi, ça touche quand même l'incarnation.
Oui, oui. Mais ce qu'il faut toujours chercher, c'est ça. C'est qu'est-ce que Dieu veut dire à travers le récit, tel ou tel récit. Qu'est-ce que Dieu... Quelle est l'intention de l'auteur? C'est ça qu'il faut rechercher.
Même au-delà de l'intention de l'auteur, parce que c'est un concept d'analyse littéraire flou, qui a été très à la mode à une époque, c'est quelle est la bonne nouvelle dans le texte. Voilà, là, c'est redire la même chose autrement. Et puis, en écoutant des questions, j'ai envie de dire, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, laissez-vous réconcilier par le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, j'étais sensible au fait que le Père Stern a employé l'expression Saint-Esprit au début de son intervention. J'ai l'impression quand même que peut-être une solution à ces débats, c'est quand même de se rappeler que le christianisme est trinitaire et qu'il y a trois pôles et que le pôle de l'esprit, vaste problème, est quand même le pôle qui nous a été laissé à la Pentecôte. Et il ne faut jamais, et en même temps, ce pôle du Saint-Esprit, c'est l'élément fondateur, fédérateur, tout ce qu'on voudra, de l'Église. Voilà.
Une dernière, c'est ça? Il faut terminer la question.
J'aimerais comprendre ce que le père du Lubach entend par exigence du temps présent. Enfin, j'aime la définition. Nous, actuellement, il fait un peu peur. Parce qu'il est bizarre. Des trucs un peu étonnants. Et dans l'évangile de Jean, le monde est dit, dominé par le prince du mensonge, Satan. Comment donc distinguer dans les exigences d'en présent les aspirations de l'Esprit Saint et les trucs pas bien?
On a jusqu'à quelle heure? Moi, dans ta question, je rendrai juste attentif à une chose, c'est le glissement que tu fais. Tu utilises le même mot en parlant du monde, tel que dans notre vocabulaire français aujourd'hui, et le monde dans l'évangile de Saint Jean. Alors là, c'est la meilleure manière de partir en cacahuète. Hein. Il faut toujours faire attention. Qu'est-ce que l'expression du monde veut dire chez Saint Jean? Ça, c'est il faut comprendre à l'intérieur de l'évangile ou des écrits de Saint Jean. Tu vois ce que je veux dire? Ne projetons pas trop vite chez Saint Jean notre manière de voir le monde. Quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les exigences, ce que Lubach appelle les exigences du temps présent, c'est ce que je vous ai cité un tout petit passage, je ne l'avais pas noté, mais quand il parle de la mue que le temps moderne impose. Il cite au début de sa conférence à Turin, il cite Karl Rahner, qui dit ceci, c'est Karl Rahner qui parle, hein, le sentiment que l'on peut avoir d'être sur la crête d'une vague qui apporte une ère nouvelle de l'histoire est autre chose que l'habitude inhérente à toute génération de se surestimer. Nous nous trouvons vraiment au point de transition d'une ère à une autre. Donc je crois que chez Lubac, il y a un peu à la manière de Rahner, cette intuition qu'il y a une mue qui s'opère et que dans cette mue, il y a forcément le meilleur comme le pire. Et quand il parle de cette dame qui s'est qui a rejoint un camp intégriste, il a ici là, toute une description de ce qu'il perçoit. Voici donc ceux qu'une attention vigilante avertit des dangers de l'époque. L'apostasie collective a fait des progrès effrayants, le désordre moral et social en est la suite, que les fidèles ne se laissent pas entamer, qu'ils sachent résister à cette atmosphère délicate. Il est en train de décrire ce qu'il peut y avoir dans l'esprit de personnes qui seraient tentées par, gagnées par la peur, disons, seraient tentées de se réfugier dans une conservation de la foi, quoi. Donc, je ne sais pas, là encore, si je réponds bien à ta question, mais ce que Lubac note derrière ou indique derrière ces exigences permanentes, les exigences de la foi actuelle, c'est cette mue qui s'opère et que le Concile Vatican II va reprendre, et vous avez bien raison de le dire tout à l'heure, notamment dans Gaudium et Spes, ce grand texte du Concile où les pères conciliaires vont inviter à prendre à bras-le-corps la réalité du monde telle qu'elle est, qui est celle dans laquelle, enfin le monde dans lequel on vit, quoi. Tu vois ? Je réponds à ta question ou pas ? J'ai l'impression de pas du tout y répondre, mais bon, on fera ça qui est demain.
Encore une question, une seule ou deux ? Oui. Bref, alors, rapidement,
la conclusion, c'est qu'on doit aller à la fois des Mestradi, à des souris blanches avec les manuels et à Saint-Jean. Non, mais c'est le.
Non, mais c'est pas une question. Et ça, c'est une question de jeune. Hein. C'est pas une question que tu poses. La réponse, c'est qu'on vive au sein de communautés qui cherchent à vivre de toute la tradition de l'Église en cherchant perpétuellement à comment cette tradition si riche répond aux exigences d'aujourd'hui. Tu vois ? Et tu peux faire ce que tu veux le dimanche, d'ailleurs, tu ne me demandes pas l'autorisation, et tu as bien raison. Mais la question n'est pas de savoir où est-ce qu'on passe nos soirées, elle est d'abord de savoir si je suis capable en moi-même et dans mon cœur d'accepter ce tiraillement de la foi, de renoncer à toute absolutisation et de garder à l'esprit le fait que ce que je cherche à vivre, c'est un don reçu de Dieu qui, s'il ne me possède pas, c'est-à-dire s'il ne m'invite pas à me détacher de ce à quoi je serais naturellement attaché par moi-même, alors il y a à un moment donné le grand risque, c'est d'utiliser l'évangile pour d'autres fins que la vie spirituelle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc que tu le traduises de manière différente par différentes formes d'expression liturgique, très bien, reste à savoir ce qu'il y a derrière. Mais l'enjeu, c'est d'éduquer son cœur pour accepter que l'évangile nous mettra toujours dans une situation qui sera une situation tiraillante. Et ça, je crois que certaines communautés, quelles qu'elles soient, n'aident pas à ça, ou peuvent ne pas aider à ça. Et c'est là qu'est le danger. Tu vois ce que je veux dire ? On reprendra un petit déj demain aussi.
Encore une question. Oui. J'avais vu une dernière indication, c'est que je comprends bien ce principe au niveau individuel, on va dire, dans le tiraillement, parce que finalement, on va faire par rapport à notre référentiel. Par contre, quand on a parlé d'un point de vue communautaire ou sociétal, pour répondre justement à des exigences du monde actuel, mais. Enfin, qui nous dépasse, on va dire, d'un point de vue juste notre quotidien. Comment on fait pour s'adapter au référentiel ? Parce que chacun va avoir son référentiel. Enfin, on va dire,
revenir et se traduire quelqu'un. Enfin, du coup, comment on arrive à s'élever au-dessus, enfin, à prendre en compte ce tiraillement, mais en même temps, à chercher l'unité globale, quoi.
C'est chercher l'unité. On ne peut pas se satisfaire de la désunion. Chercher l'unité et en regardant comment le monde actuel appelle, comment l'Évangile répond aux exigences actuelles. Et ça se fait par le dialogue, par le travail commun, le travail conjoint, quoi, tu vois. Mais je crois que, en tout cas, cette conférence à Turin du Bac nous invite à ne jamais nous satisfaire de la désunion et à chercher toujours les lieux où on va travailler ensemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, par rapport à la question communautaire, c'est une bonne question que tu poses, qui rejoint ce point. C'est en fait, est-ce que les communautés que je fréquente, elles aident à ça ou pas? Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Quelles que soient les communautés, tu vois. Merci en tout cas.